Radio Tranxène, Strasbourg, sans écouffer.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est la Fée Bleue qui vous parle et peut-être qu'en ce moment même, vous êtes déjà dans vos décos de la maison pour l'hiver. Car nous y sommes, c'est la période de l'année où l'on installe toutes les décorations et lumières des célébrations à venir. À peine le 31 octobre passé, la magie de la période prend le pas très vite. Car en dépit du confinement de l'an passé, ce mois-ci, tout commence. Et l'impatience ambiante est palpable. La vérité est là. Nous avons tous hâte de nous retrouver et partager. Peu importe ce que nous fêtons. Mais pourquoi si vite tout installer? L'impatience a fait place à l'empressement. La recherche de la joie, pour oublier le novembre habituellement si morose, est là. Si vous ne le saviez pas encore, le mois de novembre est considéré comme le plus obscur des mois par la plupart des humains. 2020 en a fait une encore plus triste période. Mais ce temps est révolu, et nous amorçons avec plus de joie cette fin d'année. Alors, décembre partira-t-il en apothéose ou retombera-t-il en soufflé? Rien n'est moins sûr. Mais ce qui est assuré, c'est que nous n'avons qu'une envie, celle de nous laisser émerveiller par cette période de fête. Et plus vite sera le mieux.
Radio Tranxène, c'est... Eh bien, merci La Fée Bleue pour ce billet d'humeur. Vous êtes sur Radio Tranxène. Aujourd'hui, on reçoit en interview Olivier Auresseur, président des Amis du Vieux Strasbourg, association qui protège le patrimoine de notre cher Strasbourg. Bonjour Olivier Auresseur.
Bonjour Jean-François.
Eh bien, merci d'être dans les studios pour nous parler des actualités des Amis du Vieux Strasbourg. Je peux vous laisser présenter votre structure ?
Les Amis du Vieux Strasbourg, c'est une structure qui a été créée en 1957. Et alors, l'origine en est tout à fait intéressante, puisque à l'époque, le préfet de Strasbourg, du Bas-Rhin, voulait détruire le Palais du Rhin. Et certains Strasbourgeois se sont opposés à cette destruction, heureusement, et ils ont décidé de créer une structure juridique pérenne pour défendre le patrimoine à Strasbourg. Ce sont les Amis du Vieux Strasbourg. Alors, c'est une association qui, aujourd'hui, a à peu près entre 500 et 600 adhérents, et qui a plusieurs activités. La première activité, bien évidemment, c'est la protection du patrimoine de Strasbourg, mais aussi la connaissance de ce patrimoine. Alors la protection du patrimoine, c'est s'intéresser à tous les projets de rénovation au centre-ville, mais pas que au centre-ville, dans les quartiers périphériques aussi. Et puis, c'est bien évidemment la possibilité d'intervenir si certains projets peuvent poser problème. Nous avons, une menace technique vis-à-vis des permis de construire, c'est que nous avons la capacité juridique d'attaquer tout permis de construire qui se trouve à moins de 500 mètres d'un monument historique. Et comme à Strasbourg, nous avons plein de monuments historiques, nous pouvons, théoriquement, être actifs sur tous les permis de construire sur la ville de Strasbourg. Alors bien évidemment, nous le faisons que rarement, mais c'est une menace qui suffit parfois à amener les gens à la table de discussion. Et puis donc, au-delà de cette protection, technique, il y a aussi la connaissance du patrimoine. Et pour connaître le patrimoine, il faut faire des parutions. Nous avons tout régulièrement un annuaire des Amis du Vieux Strasbourg qui paraît avec des articles d'universitaires, qui parle de bâtiments, qui parle de personnes, de Strasbourgeois qui sont restés en Alsace ou parfois qui sont allés très loin. Et puis nous avons aussi des visites, des conférences, des intervenants tous les mois au FEC. Nous avons une conférence, ça peut être un architecte du patrimoine. Le mois dernier, c'était Daniel Guémard, architecte des monuments historiques. Le mois précédent, nous avions une visite sur site à Saint-Pierre, le jeune protestant, c'était Benoît Jourdan, archiviste de la ville de Strasbourg, et régulièrement, donc nous avons ces visites, et enfin, nous avons des visites sur place qui peuvent être des découvertes d'expositions. Hier, nous avions, par exemple, la découverte de l'exposition NR au Palais des Rohan.
Bien sûr, d'ailleurs, double exposition entre Strasbourg et le musée NR à Paris. Alors, on a bien compris, l'association des Amis du Vieux Strasbourg, comme aussi bon nombre d'autres associations qui protègent le patrimoine à Strasbourg, ont un rôle à la fois de conseil, de prévention, mais aussi, vous veillez à la bonne connaissance du patrimoine local. Très ancienne association, vous avez parlé de 1957, c'est ça, 55?
Tout à fait. 57.
Il y a depuis très longtemps un rôle clé que jouent les associations érudites et savantes à Strasbourg. C'est par la bonne connaissance de tout le patrimoine bâti, architectural, mais aussi culturel dans lequel nous vivons, vous participez à le souligner et à veiller aussi à ce que, au niveau des chantiers, des réhabilitations, qu'on aille sur la bonne voie. Il me semble que vous avez été très lié au chantier des nouveaux bains municipaux.
Oui, le chantier des bains municipaux, c'est un chantier de longue haleine. Alors, d'abord, le bâtiment lui-même est un bâtiment exceptionnel par sa conception et par son existence. Il est dans le quartier de la Neustadt, qui a été classé au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2017. J'avais là aussi beaucoup travaillé sur le dossier avec la ville de Strasbourg et l'État. Et j'ai participé au moment solennel quand l'UNESCO, dans sa convention mondiale, a décidé le classement de Strasbourg ou de la Neustadt, pour être précis, puisque Strasbourg était déjà classé au patrimoine mondial pour le centre-ville, mais pour la Neustadt. Donc ce bâtiment, il est dans la Neustadt, il est à quelques pas du palais universitaire, et par chance, il avait été épargné par les guerres. Déjà, premier élément pour beaucoup de bains de cette période, parce que n'oublions pas qu'il a été construit pendant la période allemande par les Strasbourgeois.
C'est du néo-renaissance germanique.
Exactement. Et beaucoup de ces bâtiments ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, deuxième chance, il n'avait pas été rénové dans les années 50 ou 60. Et parce qu'il y a un certain nombre de bains qui ont été rénovés en Allemagne, ceux qui subsistaient, ils ont été souvent mal rénovés. Donc, quelque part, le fait de ne pas avoir fait de rénovation était une chance, puisque là, nous avons eu la possibilité, grâce à l'architecte François Chatillon, d'avoir une rénovation, j'allais dire, au top niveau, avec les dernières technologies, à la fois pour la restauration et pour la mise aux normes des piscines, parce que n'oublions pas, c'est un bâtiment, avant tout, une piscine avec des bains romains. Donc c'est avant tout cet usage-là qu'on a pu préserver, avec, encore une fois, des systèmes de récupération de l'eau, des systèmes de récupération de chaleur tout à fait innovants. On est reparti pour un siècle, il a été construit il y a un siècle, on est reparti pour un siècle grâce à la rénovation qui vient de s'achever et les bâtiments, donc le bâtiment vient d'être ouvert au public.
Vous avez salué l'architecte Chatillon ?
Tout à fait, oui.
J'imagine aussi qu'il y a une grande collaboration du service de l'inventaire d'Alsace, avec notamment Olivier Hegel, qui a vraiment été très vigilant sur la question des bains municipaux.
Alors, Olivier Hegel vient régulièrement faire des conférences aux Amis du Vieux Strasbourg. C'est un des intervenants qui participe à nos conférences. Oui, il y a ce travail d'inventaire qui est très important, qui a permis aussi de pouvoir faire le classement de la Neustadt à l'UNESCO. C'était, à la base, il faut le recensement des bâtiments. Et puis ce recensement, il est double, puisqu'en réalité, la Neustadt va être aussi, introduite dans ce qu'on appelle, ce qu'on appelait le secteur sauvegardé, la fameuse loi Malraux de 1962, qui aujourd'hui, qui ne s'appelle plus secteur sauvegardé, qui s'appelle site patrimonial remarquable. Et il y a donc tout un dossier d'agrandissement du périmètre qui a démarré il y a 10 ans, parce que c'est un chantier énorme, il faut recenser tous les immeubles du périmètre. 244 hectares, nous aurons le plus grand secteur sauvegardé, ou SPR aujourd'hui, de France. Donc ça a nécessité un travail énorme du cabinet Camille André Grégoire qui a recensé tout ça. Et nous arrivons là, je ne dis pas au but, parce qu'il va se passer encore quelques opérations, mais nous arrivons dans les toutes prochaines semaines à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg, qui va être adopté début décembre, et donc qui va être connu du public, qui va être diffusé, et qui va engager à la fois les propriétaires, la ville de Strasbourg et l'État dans la sauvegarde de, non seulement de la Neustadt, mais du centre-ville.
Donc vous êtes aussi membre du comité de révision du PSMV, il y a une perméabilité au niveau du travail entre l'association, le milieu associatif strasbourgeois et ceux qui travaillent sur le PSMV comme Camille André.
Tout à fait. Alors on a un dialogue, j'allais dire, permanent entre nous les associations. Moi, bien évidemment, pour les Amis du Vieux Strasbourg, mais vous avez aussi les Amis de la Cathédrale, vous avez les Monuments Historiques d'Alsace, vous avez toute une série d'institutions qui, d'ailleurs, j'en dirai un mot tout à l'heure, sont maintenant réunies dans un immeuble du 15 rue des Juifs.
Il faut qu'on en parle.
Exactement. Et avec les services de la ville, la police du bâtiment, mais avec les services de l'État. Avec, j'ai un dialogue très fructueux avec l'architecte des bâtiments de France, Agnès Blondin, parce qu'il faut être, je dirais, chacun dans son rôle, mais chacun en travail permanent et en collaboration permanente pour qu'on puisse faire avancer ce dossier, encore une fois, qui est compliqué. Parce que très important, on a recensé des dizaines et des dizaines, quand je dis « on », c'est le cabinet a recensé des dizaines et des dizaines de bâtiments. Il ne s'agit pas simplement de recenser l'extérieur, les façades, il s'agit de recenser aussi les points importants, remarquables, dans les immeubles. C'est ça la grande différence entre un plan local d'urbanisme et un PSMV.
Ah oui, tout un travail d'inventaire pour aller sur les sites. Ça demande beaucoup de travail bénévole aussi, pour retrouver tout ce qui est mobilier, décoration intérieure de qualité. On pourrait parler des décorations intérieures du 15 rue des Juifs, qui est d'ailleurs votre nouveau siège, parce que la mairie de Strasbourg a permis à de nombreuses associations que vous allez pouvoir nous énumérer de s'établir dans un lieu en plein centre-ville où le travail entre associations est maintenant possible. C'est le 15 rue des Juifs.
Alors tout à fait, le 15 rue des Juifs. Alors on va peut-être revenir d'abord sur un tout petit point d'histoire. Ce 15 rue des Juifs, c'est un immeuble remarquable à plus d'un titre. Historiquement, c'est un immeuble qui a été construit probablement à la fin du XIIIe siècle. Puisqu'on a fait une étude dendrochronologique, les poutres ont été coupées, c'est très précis, à l'hiver 1289-1290. Vous voyez, en dendrochronologie, on est extrêmement précis. Donc le bâtiment probablement date de ce moment-là. Ce sont des poutres qui ont une portée de 12 mètres.
Incroyable pour
l'époque. Donc à l'époque, incroyable. Hein. Je dirais, sans vouloir avoir la grosse tête pour Strasbourg, mais on est dans un chantier qui est de l'ampleur de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Hein. C'est des choses incroyables. 12 mètres de poutres, il y en a 30 sur deux niveaux. Ça veut dire qu'on a amené 60 poutres de 12 mètres dans un quartier, la rue des Juifs, à la fin du XIIIe siècle. Hein. Donc, faut ramener avec les moyens de l'époque.
Bon. Que les rues étaient étroites.
Exactement. Donc, déjà, ce bâtiment en soi est exceptionnel. Et en plus, il y a eu donc, les vicissitudes de l'histoire. Il a été occupé par une famille noble, les Beuclin, qu'on connaît bien à Strasbourg, parce que leur blason est peint dans l'immeuble, et cette famille a fait peindre des peintures donc entre le mi-15e et fin 15e siècle sur les murs. Et ces peintures ont été cachées pendant pratiquement 5 siècles, et en 1987, c'était la papeterie Istra, l'imprimerie Istra qui occupait les lieux, a quitté les lieux, et ça devait devenir des appartements classiques. On a même les plans des appartements, de ce que ça aurait dû être. C'était le groupe Bouygues, une des filiales de Bouygues, qui devait faire ça. Bon. Et le hasard, c'est là le miracle. Le miracle, c'est qu'un de nos membres, qui est encore aujourd'hui membre du comité des Amis du Vieux-Strasbourg, Jean-Pierre Ribes, participait aux fouilles, aux recherches archéologiques dans la cour, et il monte dans les étages pour voir qu'est-ce qu'il en est de ce chantier. Et il arrive au moment où des ouvriers arrachent une cloison. Et derrière cette cloison apparaissent des couleurs rouges. Et il demande qu'est-ce qui se passe. Il fait arrêter le chantier, il fait venir les gens des monuments historiques. Et en fait, on découvre des peintures du XVe siècle, rapidement classées monuments historiques, bien évidemment. Mais le problème, le chantier est complètement arrêté. Que faire? La ville de Strasbourg, à l'époque, les Amis du Vieux-Strasbourg voulaient que la ville rachète le bâtiment, c'était pas possible, il y a eu changement de municipalité, c'est au moment où Catherine Trottmann est devenue maire de Strasbourg, il y avait beaucoup de chantiers, notamment le tramway, etc. Et donc c'est la Caisse des dépôts et consignations qui rachète l'immeuble, restaure l'ensemble et en fait son siège pendant une vingtaine d'années. Et puis la Caisse des dépôts part dans les années 2012 et elle donne l'immeuble à la ville de Strasbourg gratuitement, hein, c'est un don, à la condition que ça soit des associations culturelles qui occupent le bâtiment. Et donc finalement, ce que les Amis du Vieux-Strasbourg souhaitaient dans les années 80, s'est réalisé dans les années 2020, c'est que nous occupons cet immeuble, donc le 15 rue des Juifs, avec d'autres associations, bien évidemment, puisque nous sommes, en plus des Amis du Vieux-Strasbourg, il y a l'Association des Amis de la Cathédrale de Strasbourg, il y a la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace, il y a l'Espace européen Gutenberg, qui s'occupe de la promotion de l'imprimerie à Strasbourg, de la découverte de l'imprimerie. Il y a également l'Institut du droit local d'Alsace-Moselle, donc, qui est dans les murs. Et dans les toutes prochaines semaines, plutôt début 2022, puisque maintenant nous rentrons dans la période du marché de Noël, ça sera un peu compliqué, nous sommes quand même en plein centre, 3 associations vont nous rejoindre, pour la première fois qui auront un siège, j'allais dire matérialisé, par des bureaux. C'est la Société d'Histoire des Israélites d'Alsace-Lorraine, c'est le Centre du Judaïsme Renan, et c'est les Routes du Judaïsme en Alsace qui auront leur bureau au 15 rue des Juifs. C'est une nouveauté. Donc, de 5, nous passerons à 8 associations. On a déjà commencé le dialogue parce que c'est un dialogue patrimonial entre associations qui s'occupent du patrimoine. Donc, le dialogue est déjà très fructueux. Tout le monde, j'allais dire, connaissait déjà par alerte beaucoup dans d'autres circonstances.
Bien sûr, c'est formidable. C'est une constellation d'associations qui est habituée à travailler ensemble. Et comme chacun a sa spécialité, maintenant, c'est la porte ouverte à toutes les formes de travail, aussi bien des publications.
Tout à fait.
Mais aussi des visites.
Alors, on a déjà démarré, puisque cet immeuble du 15 rue des Juifs était visitable aux Journées du patrimoine au moment de la période Caisse des dépôts et consignations, ne l'était plus depuis depuis une dizaine d'années, puisque l'immeuble était vide. Et en septembre dernier, nous avons déjà commencé un premier travail, puisque le week-end, nous avons, grâce aux Amis du Vieux Strasbourg et à la Société des Monuments Historiques d'Alsace, permis la visite sur les 2 jours du 15 rue des Juifs. Et en même temps, on a relancé avec Jean-Pierre Lambert la possibilité de visiter le Mikvé, dont l'entrée est rue des Charpentiers.
Donc le Mikvé, qui est un bain juif, qui est particulièrement ancien, qui se trouve dans le sous-sol du site.
Voilà, tout à fait.
Qui normalement n'était pas accessible, mais là, pour la première fois, une double visite. Donc, autant vous dire que c'est un véritable joyau, une pépite du patrimoine strasbourgeois qui est à présent visitable.
Exact. Et le résultat a été au-delà de nos espérances, hein, puisque c'était un galop d'essai. C'est la première fois qu'on faisait ça pour les Journées du patrimoine, enfin, nouvelle formule, j'allais dire. Et c'est une réussite tant pour le Mikvé que pour le 15 rue des Juifs, puisqu'il est dans le même pâté de maison. En réalité, c'est le même pâté de maison, avec 2 entrées différentes, tout simplement. Et on recommence, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, les deux visites se referont avec, je pense, encore plus de succès, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Et nous rappelons bien sûr que ces peintures dont vous parliez il y a quelques minutes, les peintures du XVe siècle, sont tout à fait visibles pour tous les bénévoles, mais aussi les visiteurs des prochaines journées du patrimoine.
Tout à fait.
Septembre prochain. Vous êtes attentif à bon nombre de chantiers, parce que là nous parlions de votre demeure associative maintenant. Vous êtes attentif à tout plein d'autres chantiers qui ont cours à Strasbourg. On pourrait parler du Palais des Fêtes, avenue des Vosges.
Alors il y a deux bâtiments qui attirent, j'allais dire, notre attention toute particulièrement de par leur importance. C'est le Palais des Fêtes, puis qui, là aussi, en plein dans la Neustadt, ce programme de rénovation, il a démarré déjà depuis quelques années, puisqu'en fait, il y a eu plusieurs tranches de rénovation. Nous suivons ça de manière extrêmement attentive, parce que c'est là, sur le coup, ce Palais des Fêtes, que nous appelons Palais des Fêtes, en fait, ça avait été construit au tournant du XXe siècle, par une société de chorale de chants d'hommes. Il en existait un certain nombre dans le monde germanique, puisque tout à l'heure on parlait des bains municipaux, c'est la même période. Malheureusement, les faits de guerre ont fait qu'en Allemagne, tous ont été détruits. Alors il y en avait moins que de bains municipaux. Le seul qui subsiste, c'est notre Palais des Fêtes. Bon, donc déjà, une unicité exceptionnelle. Et deuxièmement, ce bâtiment, de par sa technique de construction, est tout à fait remarquable. Alors, il nécessitait effectivement de gros travaux. Les travaux, en termes d'argent, parce que rénovation égale financement, et financement, c'est toujours très compliqué à trouver de l'argent. Donc, la ville de Strasbourg a mis un programme de rénovation pluriannuel. Nous arrivons bientôt au bout de la rénovation, puisque la grande salle a été rénovée il n'y a pas très longtemps. Il reste maintenant, l'accès à cette grande salle. Et quand tout aura été rénové, nous aurons un palais des fêtes totalement de nouveau opérationnel, puisque ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le palais des fêtes est fermé depuis maintenant plus de 15 ans, parce que tout simplement la commission de sécurité avait fait des examens, le plafond donc, qui a été rénové, qui a été sécurisé, il aurait tenu à peu près entre 3 et 10 minutes.
Oui, en résistance au feu, la réglementation est particulièrement demandée.
Voilà.
Et donc ce bâtiment est appelé donc, à garder son caractère public.
Tout à fait. Et il va être non seulement à garder son caractère public, mais à être rouvert pour les manifestations. Là, actuellement, il est pour le moment... Alors, la partie arrière, c'est l'école de danse, donc là, elle est opérationnelle. Mais la partie avant, c'est-à-dire la partie salle, spectacle, elle commence à rouvrir, mais de manière très... J'ai vu il y a quelques jours qu'a eu lieu les répétitions de la chorale qui va chanter pour l'inauguration du marché de Noël. Donc la salle est opérationnelle, mais les abords ne le sont pas encore totalement. Donc pour accueillir du grand public, il va falloir encore faire un petit effort et on va y arriver. Et puis le deuxième sujet qui est très très... Et là, par contre, on est aux prémices, c'est la rénovation de l'opéra. C'est un sujet, un vaste sujet.
L'opéra, qu'on pourrait appeler, comme vous me l'avez expliqué, théâtre, parce que c'est en fait cette configuration, ce programme est avant tout un théâtre et non un opéra.
Exactement, c'est un théâtre à l'italienne, un très beau théâtre, nous avons un très beau théâtre à l'italienne. Le problème, c'est que nous ne sommes plus aux normes d'un opéra, c'est-à-dire que nous avons un souci de sécurité pour le public, mais aussi pour les musiciens, et des conditions de travail assez difficiles, des coulisses épouvantables, hein, faut le dire, il faut, à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses. J'avais visité déjà il y a une bonne dizaine d'années le bâtiment, j'étais effrayé par les conditions de travail. Un exemple, pour monter un décor d'opéra, il faut plus de 15 jours à 3 semaines, parce que tout simplement, dans d'autres opéras, les camions, les semi-remorques arrivent et un peu comme au Zénith, les décors sont amenés, glisser directement sur la scène. Là, on est obligé d'utiliser une vingtaine de personnes pour monter tout à la main. Quoi. On travaille dans des conditions totalement hors du temps par rapport au XXIe siècle. Donc, il y a des questions de sécurité. Donc, ça va être une rénovation nécessaire. Mais est-ce qu'il faut, et là, le débat aujourd'hui est là, faut-il rénover et en faire de nouveau un théâtre ? Et puis construire un opéra par ailleurs, ou conserver l'option opéra, mais alors il faut faire des travaux conséquents. De toute manière, c'est des investissements très importants et qui nécessitent, je dirais, une réflexion pour ne pas se louper.
Absolument, en plus c'est de l'argent public, avec tout un système très, très précis. Vu qu'on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut en termes d'accessibilité. Donc là, votre association joue aussi un rôle très fort de conseil pour garder, bon, aux côtés bien sûr des architectes du patrimoine, pour garder le caractère architectural particulier de ce bâtiment.
Exact. Il faut la difficulté est la suivante, et on l'a vu tout à l'heure, je parlais des bains municipaux, la difficulté est la suivante. Comment préserver le patrimoine tout en adaptant le bâtiment, je dirais, aux usages du XXIe siècle. Certains, je reprends l'exemple des bains, certains comme à Roubaix, on en fait un musée. Nous, on a décidé à Strasbourg de continuer d'en faire une piscine, ce qui est très bien. Pour l'opéra, est-ce qu'il faut conserver un opéra à cet endroit-là ou le partir plutôt sur l'orientation théâtre? C'est tout le débat qui aura lieu dans les prochaines années pour savoir comment on fait. C'est-à-dire si on rénove ce bâtiment et si on construit un opéra à côté. Un opéra, j'allais dire, pour une longue période. Là aussi, c'est des investissements qui ne sont pas faits pour la génération actuelle, mais qui sont faits pour les 2 ou 3 ou 4 prochaines générations. Donc il faut voir très loin.
Ça nous amène d'ailleurs à cette conclusion où je comptais vous parler de votre partenariat avec la mairie. Car aussi bien votre mode de... Enfin, vous avez un mode de financement par vos adhérents et bénévoles, mais tout votre fonctionnement, quant à l'action patrimoniale et aussi les subventions...
Tout à fait.
...fonctionne avec la mairie. Comment ça se passe en 2021 lorsqu'on est une association qui protège le patrimoine?
Alors, il faut être très attentif. C'est vrai que nous avons eu des gros sujets que nous avons évoqués tout à l'heure dans le passé, les 10 dernières années. C'est vrai qu'il y a eu un changement de municipalité qui a aujourd'hui des préoccupations environnementales fortes. Je dirais que le patrimoine fait partie de l'environnement urbain. Et donc, il faut absolument sensibiliser tous les acteurs et la mairie aussi à cette importance du patrimoine. bien évidemment, tout le monde sait que le patrimoine est important. Il y a les paroles et il y a les actes. Donc, nous, nous veillerons et nous continuerons à veiller pour que la, toutes les municipalités, l'actuelle, dans le passé aussi, mais l'actuelle et les futures, soient toujours extrêmement attentives à cette protection du patrimoine et à cette mise en valeur du patrimoine strasbourgeois, parce que finalement, c'est notre cadre de vie à tous. Et il ne nous appartient pas, nous avons hérité de ce patrimoine et à nous de le transmettre en l'améliorant et en le conservant.
Merci à vous, Olivier Oretzer, et je vous dis à très bientôt.
Merci, à très bientôt, Jean-François.
La Malle, sur Radio Tranxen.
Et nous continuons notre émission avec notre partie intitulée « La Malle ». La Malle, notre chronique créative, qui est aujourd'hui animée par La Fée Bleue. La Fée Bleue, à toi.
Le soleil prend le pas sur la lune, écrase l'atmosphère de ses rayons et laisse apparaître un bleu de ciel sans nom. Il me faut partir, Aegon. Je salope ton tapis de tout mon sang. J'ai honte. Honte de ne pas avoir été à la hauteur du marché. Honte de ne pas avoir pu répondre aux exigences du marché. Sans doute le lac sera ma fosse commune. Si le cygne ne me dévore pas, le lac m'engloutira. Je sens déjà l'eau glacée pénétrer sous ma ceinture. Je sens déjà l'eau glacée me faire un masque mortuaire. Le froid fera de moi une branche gonflée. Pardonne ce dérangement, Aegon. Je n'ai plus toute ma tête. La déshydratation peut nous rendre fous, Aegon. Je te quitte. Je te donne ma démission. Accepte au moins cela de moi, Aegon. Je ne peux plus faire machine arrière. Maintenant, je vais traverser les herbes accrochantes qui séparent le seuil de ta maison du lac. Regarde les branches d'herbe scintillent comme des haillons d'argent. Je me baignerai jusqu'à la nuque au milieu du lit pâle du petit lac encore gelé par la pluie de givre de la nuit. Regarde-moi, Aegon. Regarde comme on peut gommer un peu d'imperfection. Ne juge pas mon sourire d'enfant malade. Je n'ai que froid. J'aurais aimé que tu me réchauffes, mais plus rien ne peut me faire frissonner de chaleur. Je suis tellement épuisée. La fatigue. Je veux seulement un peu me reposer. Bouche ouverte, tête nue. Dormir au soleil, la main sur la poitrine. Tranquille.
Radio Tranxen, c'est...
Et nous continuons notre émission avec la chronique culture qui est faite aujourd'hui par Camille Cam. Bonjour Camille Cam.
Salut Jeff, comment ça va?
Ça va très bien. Alors tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui je vais vous parler du stand-up.
Ouh.
Alors salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme dit, je vais vous parler du stand-up. Après avoir vécu 5 ans au Québec, c'est comme si voir du stand-up était devenu une habitude. Il est partout. Dans les parcs, dans les bars, à la télé. Et honnêtement, en hiver, s'enfermer dans une salle sombre pour voir des humoristes s'essayer à de nouvelles blagues en buvant une pinte, ou un soda, ou un thé, ben ça redonne le sourire. Le stand-up, c'est un spectacle où un humoriste, souvent seul sur scène, fait des blagues. Parfois écrites, parfois en impro total, parfois un mélange des deux. Le truc le plus important, c'est que le public et ses réactions jouent beaucoup. Tantôt une blague fait un flop, tantôt le fou rire prend toute la salle et devient contagieux, et l'humoriste rebondit. C'est le genre de show où tu peux te faire prendre à partie au début, le cauchemar de beaucoup d'introvertis, qui souvent évitent de s'asseoir trop proche de la scène. Mais pourquoi parler du stand-up? Parce que rire, ça nous fait uniquement du bien. Ça renforce les muscles du haut du corps, les connexions neuronales, ça aide à diminuer le stress, ça favorise l'intelligence sociale, ça crée de l'intimité et ça fait les abdos. C'est pas moi qui le dis, C'est Janet Gibson, professeure de psychologie cognitive au collège Grinnell, dans un article paru en janvier 2020 sur The Conversation. Pendant le confinement, il m'est arrivé de passer des heures à regarder des vidéos de stand-up et à rigoler toute seule ou avec mes colocs. Ça soulage, ça apaise, ça permet d'apporter un sentiment de légèreté. Et l'humour, ça dédramatise. Parce que susciter le rire, c'est aussi utile dans plein d'autres domaines. Ça permet d'aborder à travers un prisme décalé des questions vraiment importantes, politiques ou militantes. Naissent ainsi des shows féministes, antiracistes, décolonialistes. Souvent, les humoristes prennent leurs propres expériences comme support. Ça permet de dénoncer ou de proposer des alternatives en mettant en exergue des situations ubuesques ou tragiques, toujours un peu ridicules lorsqu'on les regarde avec la distance. Si la question « peut-on rire de tout ?» se pose souvent et qu'on répond que « ben, ça dépend avec qui », je suis persuadée que l'humour a cette capacité à rassembler les humains et qu'à chaque blague, à chaque chronique, à chaque soirée d'humour, une barrière est franchie et un lien est créé. En plus, tout le monde peut s'essayer au stand-up. Pas besoin de faire l'école de l'humour, parce que oui, elle existe, pour monter sur scène et prendre un micro. Un calepin, un stylo, une blague, deux blagues, et c'est parti. Il y a des humoristes populaires comme Thomas Wiesel ou Walidia, Blanche Gardin, Nicole Ferroni, mais il y en a des centaines d'autres moins connus qu'il nous reste à découvrir. À Strasbourg, le bar Le Local organise plusieurs fois par mois des soirées de stand-up et accueille le collectif Stras Comedy Club tous les premiers jeudis. Il y en a aussi en anglais pour ceux qui ne parlent pas français. J'espère que cette chronique vous aura donné le goût de rire et d'ici là, prenez soin de vous.
Radio Tranxène, c'est...
Eh bien, merci Kamikam pour cette chronique. À présent, nous passons à notre dernière partie, la partie musicale. Alors, La Lentille, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de poésie, de l'intention, de la beauté des textes, de l'interprétation.
Ah, la poésie, mais on parle quand même un peu de musique, non ?
Bah, en fait, j'ai décidé de ne pas choisir aujourd'hui parce que je voulais vous parler de Contremeute. Contremeute, c'est un groupe de rock strasbourgeois, post-punk, au texte hyper recherché et que j'ai eu la joie de voir dans la cave du Local début novembre.
Ah, le pont souhaité à juste après la fin de la chronique de Kamikam qui encensait le Local.
Ce bon vieux Local. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie qui m'a tiré par la manche en me disant « Viens, il y a mon coloc qui joue dans une cave, c'est punk, c'est vachement cool. »
C'est vachement cool, le rock.
C'est vachement cool, le rock. Et c'est vachement cool, le Local. Donc, je me retrouve dans la cave du Local. Sur scène, quatre garçons. Jérôme Rich au chant, Thomas Guterlé à la basse. Vous le connaissez aussi si jamais vous écoutez Espersan, parce qu'il en fait partie.
Oui.
Lucas Clémer à la guitare et Lino Pourquier à la batterie. Et ça déboîte complètement. D'un côté, vous avez... trois musiciens qui sont tranquillement en train de jouer. Bon, tranquillement, on prend le batteur. Bon, ça ne joue jamais tranquillement un batteur.
Ah, ça déménage.
Mais... voilà. Mais vous avez le bassiste et le guitariste qui envoient du son de plus en plus lourd, même si c'est toujours mélodique, c'est du rock très sympa. Et vous avez Jérôme, le chanteur qui se déhanche, qui scande ses textes, des textes profondément poétiques qui rappellent un petit peu Noir Désir par certains aspects. Et dans un style plus moderne, ça rappelle aussi Feu Chatterton avec une vraie présence scénique, une manière particulière de poser les textes. Faut vraiment voir le contraste que c'est d'avoir ces musiciens qui jouent et qui bougent pas tant que ça, et le chanteur qui habite la scène, qui bouge dans tous les sens. En même temps, ça fait sens quand on sait que Jérôme Rich, il y a un rapport particulier donc à la performance artistique. Et donc ça se sent vraiment bien sur scène. Ce jeu de contraste, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le nom de Contremeute. Contremeute, c'est un peu un nom qui interpelle. Il y a ce côté meute, de loup...
Féroce. De
loup féroce, ouais, et qui se ressent dans l'aspect assez engagé des textes, parce que ce que m'a dit Jérôme quand je l'ai eu au téléphone, c'est que c'était aussi un cri, les textes qui pouvaient être proposés. Il y a aussi une envie de dire des choses. Quand il écrit, il se penche sur des journaux, il regarde un petit peu l'actualité. Donc il y a cette envie de dire des choses, sans pour autant laisser de côté la poésie. Et donc le contre-meute, c'est aussi être contre sa meute, contre les autres, être tout contre eux, peau à peau. Et il y a cette espèce de contraste, là encore, dans le nom, qui est assez chouette. Dans leurs influences, on retrouve beaucoup de rock anglais, on retrouve Squid, on retrouve Fontaine D.C., on retrouve Sonic Youth. Dans les influences d'écriture, Léo Ferré, Bachung, donc une tradition assez française des textes aussi. Ils m'ont parlé d'énergie rock, de textes avec une envie de révolution, donc du post-punk, mais avec un esprit punk, tout ce qu'on aime. C'est un groupe qui existe depuis 2014. À l'origine, c'était Lucas et Jérôme, Lino et Thomas se sont intégrés ensuite. La configuration actuelle, elle existe depuis 2016. Et donc, ils jouent régulièrement à Strasbourg. Ils ont sorti en juin dernier un EP de 5 titres qu'on peut retrouver sur les plateformes musicales qui s'appelle Le Courant nous revient et que je vous encourage vivement à aller écouter. Mais c'est vraiment un plus d'aller les voir en live. Et justement, ils seront bientôt en live à Paye ton Noël le 10 décembre, place de la Cruteno. Donc, profitez-en pour aller les voir. Moi, je vous laisse pour le moment avec un titre de leur EP qui s'appelle « La femme électrique ».
Toi, la femme électrique, c'est dans les caves les ravins, c'est dans les caves les ravins que le courant nous dirige, que le courant nous revient.
C'était La femme électrique de Contremeute. J'espère que vous avez kiffé. Et n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver le 10 décembre, place de la Cruteno, pour Paye ton Noël, un festival organisé par le Pelpas.
Oui, et on a aussi beaucoup parlé du local. Aujourd'hui, le local fête ses 4 ans le 4 décembre.
Ouh, il va falloir qu'on y soit.
Ah, bah oui, absolument. Et aussi, un petit appel, il nous reste une place pour rejoindre notre équipe. Si ça vous tente de parler culture avec nous, et bien contactez-nous.
Ah oui, super, on vous sera très, très, très agréable et très reconnaissant de nous contacter. Notre émission est rediffusée mercredi prochain à 21h, si jamais vous l'avez partiellement entendu en ce dimanche. Et puis, la lentille, un petit mot pour terminer.
Oui, on reviendra bientôt sur les ondes, mais d'ici là, n'oubliez pas de mettre beaucoup de cache-nez, parce qu'on a rarement vu un début décembre aussi froid à Strasbourg. Brrr.
Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.